Nous sommes là, en plein milieu d'un centre de gravité, de préoccupations à la fois éternelles et peut-être actuelles, dans la perspective d'une certaine renaissance. Je ne sais pas dans quelle mesure le terme de théologie s'applique strictement sur un plan de parité à la somme de connaissances et à la foi même que constitue le judaïsme. Je pense que ce débat y apportera des lumières. En tout cas, il sera mené de main de maître, c'est le cas de le dire, par M. le rabbin Gilles Bernheim, qui est agrégé de philosophie, et par M. David Kessler, un autre agrégé de philosophie. En qualité de non-agrégé de philosophie, je m'apprête à écouter avec la plus grande attention ce qui sera dit, précisé, discuté, et je suis persuadé que ce débat sera fécond, même s'il n'arrive pas à des conclusions définitives. Peut-être faut-il que les choses restent en suspens et que les questions se posent éternellement en vue d'une réponse qui ne peut pas être dans notre immédiat perplexe définitif. Je donne la parole au premier orateur.
Je voudrais, en commençant cet exposé qui est intitulé sur les programmes « La théologie juive de l'avenir, création, répétition », faire d'abord l'aveu de ma timidité devant un tel sujet et aussi de ma timidité devant une telle salle, car les Pirkei Avot nous rappellent que celui qui prend la parole devant les plus savants, devant plus savants qu'eux, que soi, sont des niais, dit le Pirkei Avot. Alors j'ai peur de faire preuve d'une certaine niaiserie en prenant la parole devant plus savants que moi ici, en matière juive, et en particulier avec mon voisin qui est à côté de moi. Mais je voudrais malgré tout m'y risquer. Et deuxièmement, j'ai peur de faire preuve d'immodestie quant au sujet même qui m'est proposé, la théologie juive de l'avenir, création ou répétition. Car, d'une certaine façon, mon incompétence dans les relatives, mais quand même assez large, dans les matières juives, me pousse à poser la question « qui suis-je pour traiter un tel sujet ?» Et pour parer à cette double carence, je voudrais limiter la portée de ma parole au risque de décevoir, c'est-à-dire non pas exposer ce que devrait être la théologie juive de demain, en ce domaine je ne suis ni devin ni prophète, mais essayer simplement de dégager un certain nombre de questions et de problèmes. Et peut-être commencer tout de suite, puisque M. Mandel vient d'y faire allusion, par le problème que pose le mot « théologie » et qui fait partie, je crois, de ces mots pièges sur lesquels on peut débattre à l'infini. À savoir, existe-t-il une théologie juive ou non ? Mettons dans ce terme « théologie » le même contenu que celui qu'on a pu y mettre ailleurs. Il est certain que s'il existe une théologie juive, elle ne se présente pas de la même manière que peuvent se présenter d'autres théologies. Il est certain également que, historiquement, au Moyen-Âge en tout cas, ont existé dans le judaïsme des tentatives théologiques, et cette fois-ci proprement théologiques, fussent-elles de théologie négative, qui tentaient de tenir un discours qu'on assimile généralement à cette science qu'est la théologie. Mais mon propos n'est pas de débattre indéfiniment des mots, et plutôt d'essayer de voir, de réfléchir sur ce que pourrait être, disons, la réflexion religieuse juive de demain, quitte à, effectivement, à ce qu'on revienne sur le terme lui-même, s'il vous paraît poser des problèmes. Alors, de quoi partir ? Eh bien, peut-être de cette question, quelles peuvent être les questions, les urgences du présent que nous aurions à affronter ? Quels peuvent être les points de repère pour une pensée juive de l'avenir ? Et il ne s'agit pas pour moi ici de donner des réponses, cela c'est la tâche des maîtres, mais peut-être de formuler naïvement quelques questions. Et je rencontrerai dans mon propos cette double tentation qui est inscrite dans mon titre, la tentation de la création et la tentation de la répétition. Alors je voudrais montrer tout d'abord dans cet exposé que peut-être notre problème, le problème que nous posons aujourd'hui, n'est pas tout à fait neuf. Que d'autres l'ont déjà affronté dans un certain contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire celui du judaïsme occidental, et y ont répondu d'une certaine manière. Et je voudrais ensuite éclairer les termes nouveaux dans lesquels ce problème se pose aujourd'hui et rencontrer alors effectivement le problème du rapport entre création et répétition. Alors je partirai donc d'un certain rappel historique, et je vous demande de m'en excuser, pour mieux mettre en évidence la spécificité des temps contemporains. Je crois qu'en ce qui nous concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne le fait que nous soyons des juifs occidentaux, à la fois descendants de l'Occident et descendants du judaïsme, le problème majeur que, sur le plan de notre naissance, nous ayons eu à affronter, c'est celui de l'émancipation. L'entrée dans la modernité, entrée des Juifs dans l'histoire, qui est, qu'il faut le souligner, précisément pour mieux voir la différence peut-être avec aujourd'hui, l'entrée des Juifs est certainement pas l'entrée du judaïsme ou l'entrée du peuple juif. C'est même, d'une certaine façon, l'entrée de l'un contre l'autre, ou au détriment de l'autre. Bon, il n'est pas besoin de rappeler ici le mot de Clermont-Tonnerre, tout pour les Juifs en tant qu'individus, et rien pour eux en tant que peuple, mais il y a bien dans ce mot le symbole de notre modernité, c'est-à-dire le fait que l'entrée des Juifs dans le monde moderne s'est faite par l'abandon de ce que Kant appelait leurs vêtements, leur appartenance à une identité juive collective. Et en cet égard, le symbole théorique de la modernité pourrait être, avant même l'émancipation, Spinoza, c'est-à-dire celui qui a fait le choix de l'universalité, le choix de la raison, contre ce qu'il appelait lui-même les fantasmagories des rabbins, c'est-à-dire contre le particulier, la spécificité juive. Et au siècle suivant, on pourrait dire, tout en maintenant l'idée d'une différence fondamentale entre les deux auteurs, qui je crois est très important, et en contestant les critiques injustes qui ont été faites à son égard, que Mendelssohn, philosophe allemand, qui est, comme vous le savez, le philosophe qui appelle les Juifs à entrer dans la modernité, mais qui, comme vous le savez peut-être aussi, bien qu'on ait dit parfois le contraire, était un Juif parfaitement fidèle sur le plan personnel à la tradition, Mendelssohn donc justifie la possibilité pour les Juifs d'entrer dans le siècle par le fait que s'il y a bien une loi juive révélée, il n'y a pas de pensée juive à proprement parler. Autrement dit, la pensée juive ou l'idée d'une théologie juive ne se pose pas. Les Juifs peuvent faire le choix universel de la raison tout en continuant sur le plan personnel à pratiquer leur propre religion. Et pour Mendelssohn, en étant d'ailleurs totalement obligé de continuer à la pratiquer. Alors, si on considère cette époque de la modernité, si on considère ce temps de la modernité, eh bien, on peut comprendre ainsi la tâche que se sont donnée ceux qui sont à la fois les fils de cette modernité et qui étaient en même temps restés fidèles à l'exigence juive ou qui étaient revenus au bout d'un certain temps à l'exigence juive. Leur tâche, c'était de rendre au judaïsme sa dignité, c'est-à-dire contre une critique du religieux qui assimilait le religieux en général et le judaïsme en particulier à une religion particulariste, archaïque, pleine d'éléments anciens de superstition, contre aussi la fascination de la raison universelle, bien la question que se sont posées un certain nombre d'auteurs, dont font partie par exemple, sur le plan de l'histoire du judaïsme allemand, Hermann Cohen, Buber ou Rosenzweig, c'est comment parer à cela. Comment parer à cela, c'est-à-dire comment tenter de revaloriser le judaïsme, comment élaborer une pensée juive de notre temps. Et on peut dire que, quels que soient les défauts ou les insuffisances de chacune des œuvres, insuffisances d'autant plus notables aujourd'hui que, comme je le dirai tout à l'heure, les temps ont changé, il s'agissait bien d'une élaboration d'une pensée juive moderne qui, pour les juifs occidentaux, affirmait la nécessité à la fois de donner sa place au judaïsme et qui passait en même temps par l'exigence de qualité qui était celle du siècle. Je voudrais à cet égard lire quelques lignes d'une conférence que, il y a quelques années, Emmanuel Lévinas consacrait à Martin Buber, où je crois qu'il décrit parfaitement justement la caractéristique de la pensée de Buber, symbolique ici de l'ensemble des pensées du judaïsme moderne. Je cite « Ce fut Buber qui a montré au monde occidental que le judaïsme existe en tant que vie et pensée actuelle. Mais c'est aussi lui qui a appris à ce judaïsme lui-même qu'il était à nouveau révélé au dehors, qu'il était présent autrement que par la participation de ses intellectuels assimilés et déjudaïsés à la vie spirituelle de l'Occident. » Buber fut l'un des rares penseurs et écrivains juifs qui, par une œuvre presque entièrement consacrée au thème juif, appartenait avec un naturel, une spontanéité extraordinaire à la littérature universelle. Cette grâce et cette autorité, cette aisance étaient dans sa personne physique comme dans ses écrits. Une pensée partie d'une méditation sur les sources juives, notamment sur le chassidisme, aborda tous les problèmes de notre temps. À l'aube du XXe siècle, par-delà toute théologie et toute culture nationale, par-delà toute orthodoxie, Buber aborda le judaïsme post-chrétien, qui assimilé en Occident s'était dépouillé de tout particularisme. Buber aborda le judaïsme post-chrétien comme civilisation vivante, d'une maturité admirable, et l'installa comme partenaire à part entière au symposium de l'Occident. Car à travers la civilisation juive, il ne parlait que de questions universelles. Toutes les études entreprises depuis lors en Europe et en Amérique par les penseurs juifs qui demandent aux sources bibliques, talmudiques, kabbalistiques un enseignement et qui souvent renient Buber, toute cette quête de vérité et de doctrine ont trouvé un nouveau langage dont Buber avait fixé les accents et la sonorité et qui rend possible la confrontation. Je crois qu'il y a bien dans ce texte la description de l'enjeu de ce que peut être une pensée juive moderne ou éventuellement une pensée juive de l'avenir dans la réassomption d'une dignité perdue. Et je crois que cette tâche fut reprise aussi, si l'on continue un peu, et très rapidement, je m'en excuse, un panorama historique, avec la même ambition, mais dans des circonstances différentes, par ceux qui, en particulier en France, développèrent après la guerre les études juives. Et je pense ici à des gens comme André Néer, Emmanuel Lévinas, ou encore précisément Manitou, auxquels on rend hommage cette semaine. Face à cette situation catastrophique, tragique, qu'avait créée la Shoah, face à l'effacement d'un certain nombre de valeurs occidentales, mais aussi face à l'idée que dans l'Occident, il y avait les moyens de surmonter cet échec par les idéologies du changement ou de la révolution, ils ont entrepris un travail qui était résolument en rupture avec l'apologétique traditionnelle, en ce sens qu'il ne s'agissait pas de louer simplement les valeurs morales universelles présentes dans le judaïsme, mais que précisément la catastrophe, la Shoah, rendait impossible la simple satisfaction, la simple déclaration d'attention. Retourner au texte, comme ils nous y ont invités, c'était trouver le sens de l'existence juive, et je crois qu'on peut aujourd'hui, d'autant plus facilement que nous le faisons et que nous sommes habitués à le faire, reconnaître un courage certain à ceux qui ont, à un moment où c'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui, choisi de se poser comme intellectuel juif, c'est-à-dire choisi d'affirmer qu'il y avait dans le judaïsme une valeur intellectuelle équivalente à celle que l'on pouvait trouver dans d'autres corps de doctrine. Alors, à partir de ce panorama, qu'en est-il aujourd'hui? Je dirais que d'une certaine façon, notre génération, la mienne en tout cas, est une génération qui a une chance par rapport à celles qui l'ont précédée. Car pour elle, il existe des maîtres d'abord. Des gens capables d'enseigner avec ces exigences que l'on a définies tout à l'heure et qu'Emmanuel Lévinas rappelait dans l'article qu'il a consacré à Buber. Et parce que aussi, il existe des maîtres d'une part, et parce que d'autre part, les choses ont changé. Sur le plan religieux ou théologique, l'affirmation juive est moins difficile qu'elle ne pouvait l'être il y a 30 ans. Je ne parle pas ici du plan sociologique, dans lequel on pourrait dire beaucoup de choses sur les risques qui existent encore d'assimilation. Je ne parle pas ici du plan politique, sur lequel il est certain que l'affirmation d'une solidarité avec l'État d'Israël est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être encore il y a une quinzaine d'années. Mais je parle ici du plan proprement qui est celui de mon propos, à savoir du plan théologique. Et je crois qu'effectivement, la référence juive fonctionne mieux est mieux vécue sur le plan théologique ou religieux qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la multiplicité des colloques, des écrits, des publications qui parlent, qui traitent ou qui font référence au judaïsme. Je pense aussi bien au domaine varié des sciences humaines, les psychanalystes se demandaient il y a quelques années si la psychanalyse était une histoire juive, aux sociologues qui s'interrogent sur le fait que leurs fondateurs, les fondateurs de la sociologie française étaient tous des juifs, aux linguistes qui font un détour obligé par l'hébreu, ou plus généralement alors, on peut penser au fait que face au désarroi éthique de notre génération, face à l'absence de valeurs, l'éthique juive, l'affirmation de l'éthique juive apparaît comme une réponse possible. Mais si tout cela est réjouissant, et je le crois sincèrement, cela ne va pas sans risque. Et ces risques, ce sont ceux que j'essaierai de dégager tout à l'heure. Ces risques, ça me paraît être précisément ceux d'une création ex nihilo, d'une création sans tradition, d'une création sans source, qui pose le problème, effectivement, de la pensée juive de l'avenir. Avant d'envisager ces risques, je voudrais alors maintenant, dans un second temps, tenter de dégager, et je le fais de façon tout à fait libre, trois problèmes qui me paraissent être, alors, cette fois-ci, totalement nouveaux. Ce que j'ai tenté de faire jusqu'à présent, c'est de vous montrer comment le problème d'une pensée juive du présent s'est déjà posé dans les termes un peu équivalents aux nôtres, aux générations précédentes. Mais je crois que nous sommes confrontés à trois problèmes radicalement nouveaux, dont les catégories, dans lesquelles les catégories développées par ses prédécesseurs que j'ai cités, ne suffisent plus. Trois problèmes qu'il nous faut aborder, qu'il nous faudra aborder, et qui constitueront peut-être les germes d'une théologie juive ou d'une pensée juive de l'avenir. Premier problème, c'est je crois précisément la grande nouveauté de la situation juive, qui est fondamentalement différente de celle qui a été la situation du juif occidental dans ces deux derniers siècles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation du juif occidental, c'était le fait que le prix de sa rentrée dans l'histoire se faisait au prix de la négation de son être juif, ou plus exactement, car ça n'a pas été toujours vrai, de la négation en tout cas d'une affirmation collective. Je crois que le fait majeur du judaïsme moderne, c'est au contraire la rentrée du peuple juif dans l'histoire. Le fait que ce n'est plus simplement les individus qui rentrent dans l'histoire, mais avec la création de l'État d'Israël, le fait que le peuple juif se trouve confronté aux faits historiques dans sa profondeur. Que le judaïsme lui-même est confronté aux faits historiques, aux difficultés, aux problèmes de l'histoire, aux problèmes que pose le temps historique. Et à cet égard, les schémas traditionnels, les schémas de la philosophie juive en tout cas, s'avèrent insuffisants. Je ne ferai ici que renvoyer pour mémoire, parce que je n'ai pas le temps de le développer, mais par exemple, à l'interprétation que Rosenzweig fait du peuple juif, du judaïsme, interprétation qui conserve partiellement sa validité, dont je ne dis pas du tout qu'elle est totalement à rejeter, mais qui apparaît ici limitée. Le fait, comme vous le savez, que pour Rosenzweig, le peuple juif échappe totalement à l'histoire, qu'il vit dans un temps qui n'est pas le temps de l'histoire, qu'il y a le temps de l'histoire, qui est pour Rosenzweig fondamentalement le temps de la guerre, de la violence, le temps des luttes entre les nations, et il y a le temps juif qui est déjà un temps de l'éternité, des juifs, dit-il, sont rentrés en éternité, échappe par là même aux contingences historiques, aux contingences des peuples historiques, que sont le rapport immédiat, concret, présent à une terre, à une loi ou à une langue, le peuple juif ayant avec sa terre, dit Rosenzweig, un rapport de nostalgie, avec sa loi un rapport comme avec une loi immuable, et avec sa terre, avec sa langue, également un rapport qui ne passe que par la prière ou la théologie. Eh bien, vous voyez que ce schéma classique, par exemple, ce schéma est limité et trouve sa limite dans le fait même de l'entrée d'Israël dans l'histoire. Et je dirais même que d'une certaine façon, même les schémas les moins stricts dans leur classification, par exemple ceux qui disent que la fonction du religieux est essentiellement de limiter le politique par l'éthique, même ces schémas m'apparaissent insuffisants, même s'ils gardent bien évidemment leur validité et leur vérité. Insuffisants parce que je crois que la confrontation entre le politique et l'éthique, la confrontation avec les problèmes que sont la guerre, la violence, doit être pleinement réassumée. Et que, en ce domaine, les discours apologétiques qui glorifient le judaïsme sont à exclure. C'est cette difficulté à vivre ce problème qui est en même temps la difficulté à le penser, mais aussi la nécessité de le penser. Deuxième problème, c'est que cette situation nouvelle oblige également à poser la question massive, générale et globale du sens de la pratique, du sens de la mitzvah, entendue dans son sens le plus large. Et je voudrais dire ici que je ne pose pas simplement la simple question qui a été posée à l'aube de la modernité et qui garde une partie de sa validité, de savoir s'il est possible pour un juif moderne de continuer à pratiquer les mitzvot en même temps qu'il vit dans la cité. C'est pas la question que je pose, c'est plus exactement la question de la dichotomie, de la séparation qui existe par le fait même de la séparation du peuple juif avec sa terre, de l'histoire juive, entre la théorie et la pratique, entre d'une part le développement d'une pensée et d'autre part le développement d'une loi, d'une pratique. Eh bien, il faut se demander s'il n'est pas temps également de songer que une pratique engage l'homme dans son activité, engage l'homme dans sa pensée autant que dans son activité, et que finalement la pensée n'a de valeur que si elle nous permet une prise sur le réel. Autrement dit, une réflexion sur la halakha me paraît devoir être appelée à dépasser cette dichotomie entre la théorie et la pratique pour essayer de penser précisément le lien qui existe entre la connaissance et l'action, pour faire de l'homme qui vit, du juif qui vit, un juif unifié. Troisième problème que je voudrais dégager, c'est le fait que, précisément, la rentrée du peuple juif dans le fait politique, la séparation entre Israël et la Gola, la multiplicité des références culturelles auxquelles on assiste aujourd'hui, la question majeure de la pratique religieuse, l'inflation des discours sur le judaïsme, pose, me semble-t-il, de manière très forte, la question de l'unité du peuple juif. Par-delà les approches idéologiques, culturelles variées, par-delà les sensibilités différentes, est-ce qu'il est possible de continuer à affirmer l'idée d'un clan d'Israël, d'un rassemblement d'Israël, d'un rassemblement du peuple juif, dans la diversité de ses approches ou de ses sensibilités? Bien, ces trois questions, me semble-t-il, elles concernent l'avenir, le plus proche d'entre nous, c'est-à-dire, il me paraît que là se dégage un certain nombre de problèmes, certainement pas tous, et je ne fais pas ici œuvre d'originalité, qui seront ceux que nous aurons à affronter dans l'avenir. Et à cet égard, c'est précisément le double écueil d'une création ou d'une répétition qu'il me semble devoir être évité. Il me semble qu'il s'agit là effectivement d'une double tentation à rejeter. Quand je parle de création, je parle bien évidemment pas ici, et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, d'ici une dizaine de minutes, Je ne parle pas d'une création au sens où il s'agirait de renouveler, je parlerai tout à l'heure du renouvellement, mais de cette idée qu'il serait possible de créer ex nihilo. Autrement dit, de cette idée selon laquelle rien n'est dit, rien n'est encore dit, tout est encore à dire, de cette idée que l'on pourrait tirer du néant, réaliser quelque chose qui n'existe pas encore et qui n'a pas encore existé, dégager des formes toutes nouvelles, comme si rien n'existait. C'est, je crois, une tentation toujours existante au sein du peuple juif, de la tentation de la rupture. La tentation de faire du passé historique ou du passé religieux une référence insuffisante, la volonté de faire absolument quelque chose d'autre, ou alors, au mieux, la volonté de partir de bribes de ce passé, d'en dégager quelques miettes comme des miettes valables, par exemple, quelques références culturelles, quelques références idéologiques à tel ou tel moment de notre histoire. Je crois que tous ces recours à des formes dont Léon Ashkenazi nous disait dimanche soir qu'elles sont pour lui des formes archaïques, comme les volontés radicales de rupture, eh bien, ce sont d'une certaine façon un risque qui est celui de la dissolution, le risque de la perte de l'identité dans laquelle la tradition, le passé, c'est-à-dire précisément ce qui fait l'unité, ce qui fait que nous avons une référence commune, disparaît. Tentation qui peut également être trouvée au sein de l'État d'Israël, dans le fait de faire du juif israélien quelqu'un qui n'aurait plus rien à voir avec le juif de la Gola, de voir le juif au fusil remplacer le juif au psaume, de voir la mythologie de la force remplacer la mythologie de la faiblesse. Je crois qu'il s'agirait alors d'oublier aussi, comme le dit Emmanuel Lévinas dans « Difficile liberté », qu'il existe de l'or dans la poussière que l'on a sous ses pieds. Il y a là une vérité qu'il me paraît important de militer. Deuxième tentation, c'est celle de la répétition. La tentation de la répétition, c'est l'inverse. Celle qui pense que tout est dit, qu'il n'y a plus rien à dire, que la référence à l'autorité, la référence au texte suffit pour refuser tout changement, toute modification, qui affirme l'immuabilité du fait juif, quels que soient les faits historiques, quel que soit le présent auquel il est confronté. Le judaïsme se trouve alors réduit à un niveau obsessionnel d'une répétition permanente, le nouveau, l'extérieur, la confrontation avec ce qui lui est étranger, étant considéré avec peur comme autant d'éléments qui risqueraient d'altérer un bienfait qui doit par nature être inaltérable. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'une des tentations, la tentation de la création, c'est la tentation des juifs sans judaïsme. C'est-à-dire de voir dans telle ou telle dimension sociologique du judaïsme la réponse même à la question de l'avenir de la pensée juive. La seconde tentation, ce serait celle de faire du judaïsme sans les juifs, c'est-à-dire de dégager un patrimoine historique sans se poser la question de savoir comment il peut trouver son application dans la réalité de l'existence juive aujourd'hui. Ces deux formes sont d'une certaine façon également porteuses de mort. Et je me référerai ici à un texte qu'Henri Atlan a prononcé dans cette même salle, dans la grande salle, il y a quelques années au colloque des intellectuels juifs, et qui a été publié dans un ouvrage qui s'appelle Le cristal et la fumée, qui est une tentative de mettre en relation les notions de la biologie moderne avec certaines notions traditionnelles du judaïsme. Et Henri Atlan explique que la vie, c'est un intermédiaire, elle n'est plus pensée comme un état stable, mais elle est pensée comme un intermédiaire entre deux états. Le premier état, dit-il, c'est l'état de la stabilité. C'est la persistance du minéral ou du cristal, c'est l'immuabilité, c'est ce qui ne bouge pas. Le second état, c'est l'état de la fumée. C'est ce qui est en constante évolution, ce qui est imprévisible, ce qui est constamment fugace, ce qui ne cesse de se renouveler. Bien, la vie, dit Henri Atlan, c'est un tourbillon liquide entre ces deux morts. La mort par rigidité du cristal, la mort par décomposition du minéral. La vie, ce qui est vivant, c'est ce qui a besoin des deux, qui a besoin à la fois de la stabilité pour vivre, pour exister, mais qui a besoin aussi de se renouveler et qui ne peut pas aller l'une sans l'autre. Et Henri Atlan cite le Rav Kook, un commentaire du Rav Kook sur cette expression hébraïque que vous connaissez, cette expression biblique, « Chai v'kayam », vivant et persistant. Chai v'kayam, vivant et persistant, ça semble être un pléonasme, une répétition. Pourquoi dit-on à la fois d'une chose qu'elle est vivante et qu'elle est persistante? Et le Rav Kook disait que « Chai v'kayam », c'était non seulement pas un pléonasme, non seulement pas une répétition, mais c'était la mise en évidence de deux états totalement opposés. La vie, chai, c'est ce qui ne persiste pas, au contraire. C'est ce qui bouge sans cesse, ce qui évolue, ce qui ne cesse de se modifier. Kayam, c'est au contraire ce qui ne vit pas, ce qui persiste, ce qui dure, et ce qui n'est pas soumis aux aléas, au renouvellement de la vie. Et explique le Rav Kook, et Henri Atlan reprenant le Rav Kook, chai v'kayam, c'est l'état qui doit être. À la fois le fait de persister, de traverser les morts des existences, et à la fois le fait de vivre, d'être en constante évolution. Bien, je me demande si ce n'est pas finalement dans le terme hébreu de chidouche, de renouvellement, que l'on trouverait la solution à la question de savoir où peut se situer une pensée juive de l'avenir. C'est-à-dire une pensée juive qui soit à la fois basée sur la mémoire, sur la nécessité de conserver le passé. On peut renvoyer ici à ce que disait le Baal Shem Tov, Basrira Sod Agoula, c'est dans le souvenir que se trouve le secret de la rédemption. La responsabilité pour l'avenir, c'est le fait de conserver sa mémoire, de conserver sa tradition comme ce qui nous unit. Mais en même temps, la mémoire, pour qu'elle ne soit pas mémoire figée, pour qu'elle ne soit pas mort, doit être une mémoire créatrice, c'est-à-dire une exigence permanente de renouvellement face au présent. Et prendre la responsabilité, c'est celle d'un renouvellement sans rupture. Comme le disait le Rav Kook également, le Kadesh est à Chidouche, le Chadesh est à Kidouche, faisant un jeu de mots sur les mots Kidouche et Chidouche, à la fois sanctifier constamment le renouvellement et renouveler constamment le saint, la sanctification. Bien, l'exigence pour une théologie juive de l'avenir, je crois, elle se trouve là. C'est d'oser s'affronter aux questions de notre temps, qui sont, comme j'ai essayé de le dégager, je crois, le problème d'une politique juive, le problème d'un droit juif, dont je sais qu'il tient à cœur d'un certain nombre de gens, dont en particulier Georges Ancel, le problème de l'identité juive dans son ensemble et celle de l'unité du peuple d'Israël. Je voudrais simplement, pour terminer, en m'excusant encore une fois de ne pas du tout avoir apporté de réponse et d'être conscient que j'ai soulevé des problèmes sans du tout apporter ici les moyens de les résoudre, je voudrais pour terminer simplement, alors cette fois-ci, faire part de quatre certitudes qui me paraissent être peut-être les bases sur lesquelles peut s'appuyer une réflexion sur la théologie juive de l'avenir. Première certitude, c'est celle de la centralité d'Israël et de la centralité de l'État d'Israël. Je ne veux pas ici du tout nier le rôle ou la valeur que peut avoir la diaspora, ce serait tout à fait hypocrite de ma part. Je crois que la diaspora a une force de question, une force d'interrogation qui existe. Il n'en reste pas moins vrai que si les problèmes sont bien ceux que j'ai dégagés, c'est-à-dire ceux d'une politique juive, ceux d'un droit juif, la réponse à ces questions ne peut s'élaborer que sur le lieu où on est confronté à la difficulté de mettre ensemble, précisément théorie et pratique, loi et la vie, la loi et la vie, la difficile exigence de l'éthique et la difficile réalité du politique. Et en ce sens, c'est de là, je crois, d'où pourront nous venir et d'où nous viennent peut-être déjà un certain nombre de réponses. La seconde certitude, c'est que si le mot théologie a un sens, ce n'est certes pas dans un discours sur Dieu qui en épuiserait la réalité, mais c'est peut-être dans le fait, dans le rappel qui nous est fait par ce terme, que l'histoire juive ne se suffit pas à elle-même, et que ce qui anime le peuple juif depuis toujours, c'est des mots qu'on pourrait désigner en français comme la foi ou l'espérance, ou en hébreu comme la émouna, comme l'engagement. Autrement dit, on entend souvent dire aujourd'hui que le judaïsme peut se passer de Dieu, que le judaïsme peut parfaitement se passer de la foi, et qu'il est une doctrine qui se suffit à elle-même ainsi. Je crois qu'il faut rappeler que si tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons ici a un sens pour nous, c'est aussi parce que nous sommes habités par cette espérance dans le fait qu'il y a dans l'histoire un sens qui transcende cette histoire, que cette histoire ne trouve pas son sens dans ces événements, mais dans quelque chose qui la dépasse. La troisième remarque, troisième certitude que je voudrais faire pour conclure, c'est le thème de l'unité d'Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est celui de savoir comment la diversité des approches, la multiplicité des références peut maintenir malgré tout et malgré les divisions qui nous préoccupent l'idée du clan d'Israël, l'idée de l'unité d'Israël. Je voudrais, s'il me reste encore quelques minutes, faire référence à une très belle lettre que Gershom Scholem, qui comme vous le savez était quelqu'un de à la fois profondément attaché à tout ce qui constitue la tradition juive et en même temps un peu en rupture parfois avec certains aspects de cette tradition, Gershom Scholem a envoyé une lettre à Hannah Arendt à propos du procès d'Eichmann. Vous savez que le procès d'Eichmann avait suscité bien des réactions. Gershom Scholem explique que, en ce qui le concerne, tant il était favorable au procès d'Eichmann et à la condamnation à mort d'Eichmann, dit « rien ne peut mettre en question la valeur de la condamnation à mort d'Eichmann qui était 100 000 fois justifiée ». Il ajoute cependant qu'il avait des doutes sur la nécessité de mettre en œuvre la condamnation à mort, comme si le fait même de la mettre en œuvre pouvait expier quelque chose. Et Scholem a eu une polémique avec Arendt, car Hannah Arendt a écrit un texte quelques mois après le procès d'Eichmann, qui à la fois relatait ce procès et parlait de l'attitude des Juifs pendant la guerre. Et avec une certaine complaisance, Hannah Arendt mettait en relief ce qu'elle appelait les faiblesses des Juifs pendant la guerre. Et Scholem lui répond ceci, que je voudrais vous lire. Voilà ce qu'il lui écrit. « À chaque moment critique et décisif, votre livre ne parle que de la faiblesse de la position des Juifs dans le monde. Je suis prêt à reconnaître cette faiblesse. Mais vous y insistez tellement qu'à mon sens, votre exposé cesse d'être objectif et prend des résonances malveillantes. Le problème est bien réel, je l'admets. Alors pourquoi votre livre nous laisse-t-il un sentiment si profond d'amertume et de honte, non à cause de la compilation, mais à cause du compilateur? Ma réponse à cette question, dans la mesure où j'en ai une, je n'ose la taire, précisément en raison du profond respect que je vous porte. Elle touche à la racine de notre désaccord. Ce que je reproche à votre livre, c'est son insensibilité, le ton presque sarcastique et malveillant qu'il apporte à traiter ces sujets qui touchent à notre vie en son point le plus sensible. Il est dans la tradition juive un concept difficile à définir et pourtant bien concret que nous appelons... significatif précisément de l'incompréhension où elle se situait par rapport à ce que disait Scholem. Je commencerai à partir de ce que je viens d'établir parce que vous appelez l'amour du peuple juif ou Ahavat Israël. Entre parenthèses, ajoute-t-elle, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir me dire depuis quand ce concept a joué un rôle dans le judaïsme.